bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale avec Léa Cadeau-Boudet,
Marina
Holman.
Bonjour
Albert.
Marina.
Albert Alcou.
Bonjour.
Tel attend Guy Cassureau et notre invité Julie
Carlet. Bonjour.
Julie Ferrier, merci de venir à ce micro.
Après Bonjour,
avoir
Maggie.
Brillamment réussi votre brevet d'études hier soir face à Iléla Cadeau, vous l'avez dit, on va venir, vous venez pardon, parler de À ma place, vous feriez quoi? J'avais promis à Philippe Bertrand de faire la vanne, donc je vais jusqu'au bout. Demain,
obligé, hein.
Demain c'est férié, mais aujourd'hui aussi. Ça c'est fait, comme ça on a dit qu'on a... Comme ça, on a fait le tour.
Double dose de férié.
Vous serez, exactement, vous serez à partir de la semaine prochaine, le 4 juin, 21h, au Théâtre de l'Atelier, pour un spectacle, comment le définir?
Cabaret.
Une folie, cabaret, oui c'est ça.
Un foutrac. Foutrac, c'est pas très beau.
Non. C'est pas le terme, foutrac.
Si, c'est un foutrac, c'est un mezzé.
Ah, oui.
Un mezzé, un cabaret. En fait, c'est du cabaret. Et il n'y en a pas beaucoup en ce moment sur Paris, d'ailleurs depuis quelques années. Tu sais, un petit peu comme Shirley Dino pouvait faire.
Ouais.
Comme
Sauf
ça.
Que, non, mais Shirley Dino, ils étaient.
Sous chapiteau
ils étaient dans leur univers, ils étaient tous les deux, point. Là, vous faites venir d'autres personnages qui apportent leur énergie, la danse,
leur folie,
leur humour, leur chant, leur chorégraphie, leur costume. Ils interprètent différents personnages. Il y a du monde quand même.
Il y a du monde, ouais. C'est-à-dire que chaque acteur joue quatre personnages, mais tout est sous ma direction. C'est-à-dire que les chorégraphies, certaines musiques que j'ai composées aussi, enfin composées, attention, avec un compositeur, mais tu sais.
Oui, parce qu'il y a aussi. C'est vous qui avez fait ça?
Non, pas du tout.
Merci.
Bravo, Julie.
Non, ça, c'est un clin d'œil que fait un des acteurs, ouais, c'est ça. Et ils sont tous en alternance. Donc, en plus, le spectacle, c'est-à-dire que tu vas venir un soir, tu vas voir une distribution, puis tu viens un autre, t'en vois une autre.
Donc en alternance, est-ce qu'il y a Mas Belcito, Michael Faux, Arnaud Maillard, Mathieu Pillard et Covarea?
Exactement.
J'ai bien dit, très
parfait.
Bien. Et puis il y a Madame.
Il y a Madame Ferrier.
Non, il y a le...
Ah, je croyais que c'était moi.
Comment s'appelle le chien?
Et moi, comme... Ah, Madame.
Bah,
Tamagine,
oui.
Madame, exactement.
Madame, vous appelez comme ça votre chienne?
Bah, elle s'appelle Tamagine Ferrier de son nom de passeport, pour quand elle voyage vétérinaire et compagnie.
Ah, okay.
Et puis après, sinon, son nom de scène, c'est Madame. Et tu sais pourquoi? Parce que déjà, je trouve que ça sonne pas mal, Madame, pour un chien. Mais c'est surtout parce qu'on la prend pour un mâle. Voilà.
Madame, on la prend pour un mâle.
Oui, donc Madame.
Ah, comme ça, on voit que c'est
pas
un...
Bah,
tout de suite, c'est... Voilà, c'est...
Comme ça, pas d'équivoque,
voilà.
C'est une...
Merci.
Voilà. On va parler de ce spectacle, mais d'abord des questions concernant Julie Ferrier, pour voir si vous la connaissez bien. Quel rapport a Julie Ferrier avec le cinéma de Champigny-sur-Marne?
Elle a une salle à son nom. J'ai bossé, mais j'ai bossé.
Trop classe.
Ouais.
Vous avez une salle qui porte votre
oui.
nom.
Oui. Bah vous commencez fort ce matin, ouais, bah mais non, ça c'est un peu
mais qui a commencé. Alors,
Claude... bah en fait, je vis à Champigny-sur-Marne.
Claude Lelouch
je dis, moi, j'en
était notre invité, et d'ailleurs il vous a complimenté sur votre qualité de jeu. Et Claude Lelouch a aussi sa salle à côté de la vôtre.
Oui, Samuel Benchetrit, Juliette Binoche,
ouais.
Et puis je crois Monsieur Tavernier, il me semble, non?
D'accord. Il y a eu une cérémonie, une inauguration?
Il y a eu une inauguration, j'en étais la présentatrice. Présentatrice.
Non, dit présentatrice. Non, ça a changé.
Tu vois,
c'est
parce que je vais aller vite. Alors, je vais prendre mon temps. J'en étais la présentatrice en personnage, le personnage de Martha, qu'on retrouve d'ailleurs dans le spectacle, dans le cabaret que je joue, qu'on va jouer.
Qui est un personnage un peu phare. Elle vient d'où?
Alors, c'est un mélange d'un guide égyptien et d'une chorégraphe de mode, Douchka, de mode, puisque on faisait des défilés quand j'étais plus jeune. Et c'est un personnage que j'ai créé maintenant, en l'an 2000. Donc, tu vois, il aurait presque 20 ans.
Et il est toujours présent, il est souvent présent dans vos spectacles en tout cas.
Oui, il est souvent là.
Ouais.
Pour moi, c'est le symbole de la liberté.
Ça vous rassure, ouais, c'est ça.
Symbole de la liberté, donc il y a un côté un peu tout est permis.
Et de la folie, vas-y, chérie,
lâche-toi. Exactement, tout est permis, c'est plutôt la liberté plus que la folie. Après, la liberté permet d'être un peu fou.
C'est ça. Vous, Julie Ferrier, par amour pour un homme, elle est allée, et c'est la question, elle
au bout
est allée
du
jusqu'où
monde.
Non, enfin, pas loin.
On parle d'un lieu, on est géographique.
Ouais, on est géographique.
En Islande.
Non.
Antarctique.
Au fin fond de l'Amérique du Sud.
Non. Elle est
déménagée
par amour, elle est allée s'installer.
À Champigny-sur-Marne. À
Strasbourg.
Alors, non.
Ça, il faut plus loin.
En France?
Oui, c'est
Paris.
Vraiment le bout.
Finistère.
Aux îles Kerguelen. Ouais. En Bretagne.
En Loire-Atlantique.
Wow.
Exactement.
Ah, Ah, il faut pas que je vexe.
Mais c'est pas ça, c'est que les gens de là-bas, les Nantais et tout ça, se considèrent bretons. Et ce qui est triste, c'est que les Bretons
n'acceptent pas les Nantais.
Exactement. Ça s'arrête à Rennes. Et c'est mort. Et c'est vraiment, les gens de la Loire-Atlantique se considèrent comme des Bretons. Ils en souffrent un peu.
C'est l'histoire de l'immigration en France en même temps.
Oui, c'est ça, c'est terrible. c'est vraiment, les Bretons, soyez un peu plus souples, les gars. Et donc, voilà, j'ai vécu avec ce Breton qui s'appelait Gwenaël, quand même, qui veut dire ange blanc. Baronnet. Et d'ailleurs, dans mon spectacle, toujours le même, à ma place...
Vous feriez quoi ?
Quoi ? Ouais. Il y a des musiques de sa mère, à la harpe celtique, puisque sa mère est harpiste celtique, Brigitte Baronnet.
Donc vous, donc vous êtes restée très proche.
Ah, je suis restée très liée, et puis surtout, c'est ma plus belle histoire d'amour. Ça reste ma plus belle histoire d'amour.
C'est joli. Et quand vous dites...
Non, c'est triste.
C'est triste pour vous.
Par amour, je suis prête à aller jusqu'en Bretagne, on a l'impression que c'était un...
Non, alors j'ai fait pire. Non, mais pas pire, parce que ça, c'était une très belle histoire, c'est ma plus belle histoire d'amour, donc vraiment, j'étais vivre 2 ans là-bas. Mais c'est le moment où j'ai lâché la danse, d'ailleurs. J'ai fait du théâtre avec eux, bref. C'est que je jouais à New York, et c'est pas des conneries, je jouais à New York, déjà mes trucs un peu, il y a une dizaine d'années là, mais on va dire mon univers, de clown, et tout ça, on jouait à New York, et j'ai fait New York Oléron, j'avais une semaine de break, et j'étais rejoint d'un gars, et alors par contre là, enfin en revanche, ça valait pas le coup.
Ouf.
Et là, je suis venu 5 jours à l'île d'Oléron et je suis reparti jouer à New York après.
Et là,
nous
tairons le nom de ce monsieur d'Oléron.
Ah, on va le taire, mais on pourrait le dire.
Non.
Je pense qu'il s'est reconnu qu'il est en train de chialer. Là.
En même temps, ça va, c'est 5 jours, hein, donc c'est pas non plus toute une vie perdue, quoi.
Complètement, ouais. Et puis, il y a
ce
petit aparté de faire New York-Oléron.
Ouais, c'est ça.
Il y en a qui le font à la voile. Hein.
En empreinte carbone, ça fait cher la mauvaise histoire d'amour.
C'est pile en face, tu sais. Bah c'est ça qui me faisait fantasmer.
En même temps,
aussi.
Ça aurait pu être bien. En fait.
Julie Ferrier a une collection de 300... quoi ?
Chaussures.
Non.
Qu'est-ce qu'elle peut
poupée,
avoir
poupée, santon, non.
Des masques
horloge,
poivrier, horloge, non.
Montre, voiture,
non.
Petite sculpture en coquillage.
Chien empaillé. Ah oui, oh, c'est...
Non. Moi-même, je ne le sais pas, je suis assez curieuse.
C'est des bijoux, c'est des livres.
Mais pas collectionneuse.
Cadre, des vêtements.
Ah oui.
Non, il t'as dit quoi?
Sac à main.
Non,
mais je l'ai arrêté.
Chaussons de danse.
Trop bien, non, c'est pas des vêtements.
Des schtroumpfs.
C'est pas, non plus.
Des bijoux.
C'est plus artistique.
Des toiles, des dessins,
des chapeaux,
non,
des sculptures.
Non, mais c'est un art.
La photo,
non.
Des meubles en marqueterie,
non.
Des films, des vinyles,
oui, exactement. 300 albums. Vous les avez collectionnés au fur et à mesure
Alors ça aussi c'est pas. Alors merci Emmaüs déjà.
Récupéré de votre famille, que
de ma famille, du décès de mes grands-parents, j'ai toute la collection classique déjà.
D'accord. Deutsche Grammophon.
Oh, mais magnifique. Dans tous les sens. Et c'est là où j'en ai à peu près déjà 100, au moins. Et puis après, moi j'ai une culture plus, hélas, on va dire,
jazz funk. Vous avez la platine pour écouter les vinyles, vous...
Devine.
Non, mais parce que, tout le monde ne l'a pas, d'abord.
Mais figure-toi que j'écoute plus que des vinyles.
Quels sont
ce tu dois, on
c'est génial.
Voit, d'ailleurs.
Qui êtes-vous? Non, il y a un son formidable, c'est quand même largement différent de ce qui est pratique avec le numérique, c'est tout est compressé, on peut tout avoir dans un téléphone et on peut avoir une discothèque, mais le son est incomparable. Je veux pas avoir un discours de vieux réac, mais c'est quand même formidable le son.
Non, c'est ton choix.
C'est ce qui se vend le plus en ce moment, les vinyles.
Ouais. Ça, alors, non, faut préciser. Ce qui se vend le plus par rapport aux autres supports.
Oui,
c'est-à-dire aux CD.
Les CD, les pauvres.
Mais sinon, la consommation reste maintenant très...
J'en trouve maintenant
MP3.
Des platines plein les rayons.
Les objets magnifiques. Souvent, il y a un travail qui est fait en particulier pour qu'on ait envie d'acheter l'objet. C'est ça qui est beau de l'avoir à la maison.
Julie Ferrier prend soin de sa santé et de sa forme. Elle a décidé de supprimer de son alimentation...
Le sucre.
La viande, les gluten. Oui, gluten autre chose.
Gluten
et lactose.
Et alcool.
Oui,
et le glyphosate.
Le lait de vache. sous toute sa représentation. Après, je me permets de temps en temps manger un yaourt s'il faut.
Oula, la folie.
Ou un bon comté.
La folie.
Non, je suis pas. Pour moi, oui. Mais si on m'invite et qu'il y a un très bon plateau de fromage, je vais me régaler. Et puis, pareil avec le sucre. Là, j'ai commencé à arrêter le sucre. C'est
parce
tout
que,
nouveau.
Parce que ça change. Vous vous rendez compte que physiquement sur scène, vous n'êtes pas la même en fonction de ce que vous avez mangé.
C'est pas forcément sur scène.
Ah.
pour la scène, par exemple, je prends de la spiruline, qui est un beau booster. C'est un truc énergétique, c'est c'est une algue.
C'est vachement bien.
C'est une algue.
C'est de la protéine aussi.
Redis-moi non,
spiruline.
Spiruline.
Ouais. D'accord. Mais, c'est en hygiène de vie au quotidien.
Oui, oui,
quoi.
Oui, oui
ouais,
c'est
ouais.
ça.
Que je joue ou pas sur scène.
Eh ben alors justement pour reprendre la danse, physiquement et sur scène, vous avez besoin d'être totalement prête. Donc il y a quoi ? C'est de la gym, c'est des séances d'entraînement, c'est plusieurs heures par jour de répétition, de travail.
Alors ça c'était ça il y a 20 ans, hein, quand j'étais danseuse, 5 heures de danse par jour.
Oui mais pardon, là sur scène vous continuez de danser, de bouger ?
Très peu, beaucoup moins qu'avant.
Ah mais ça devait être.
Ah oui, moins qu'avant. Ouais,
non, oui, mais j'ai de l'énergie pour 2-3 femmes, donc ça c'est pas le problème, mais c'était parfait d'ailleurs pour ma mère quand je lui ai annoncé que je voulais à 14 ans être danseuse professionnelle. Elle était ravie parce qu'elle s'est dit ah mais oui c'est tout à fait ça, il faut que tu utilises cette énergie en surplus.
Ça vous manque de temps en temps ces séances de répétition d'entraînement
non,
de
tout,
danse
pas du non tout. La danse c'est 15 ans de ma vie, c'était extraordinaire. Je regrette absolument rien, c'est pas il y a pas de référence hein. Mais vraiment je ne regrette rien.
C'est bien. Il fallait un petit silence après ça. Une citation de Bertrand Tavernier que Julie Ferrier aime citer. L'artiste est un névrosé qui se soigne.
Mal.
Non. L'artiste est un névrosé qui se soigne.
Devant la caméra.
Pas loin. Devant le public. En gagnant de l'argent.
Non.
En changeant de peau.
Non.
Névrosé qui se soigne.
En prenant de l'argent.
En prenant son temps.
Ouais.
En s'amusant.
Toute
une
vie.
Un artiste est un névrosé qui se soigne.
Pas tout à fait.
Non.
Un ouais, sans succès, enfin, je sais pas.
Est un névrosé qui se soigne.
Mais qui reste dingue.
Non. Un artiste est un névrosé qui se soigne. Qui ouais. se soigne.
Devant vous, devant nous. On n'a
pas loin,
ça.
En fait, c'est l'idée.
Mais ouais. qui soigne les autres, mais qui.
Non,
qui...
on peut
justement.
Les aider.
Non. Ah, pas, non.
Ou qui se soigne publiquement, qui non. se soigne.
Mais à plusieurs.
Pour aller plus mal.
Non, au contraire.
Sans honte, qui se soigne. Mais
je vous inspire pas ?
Si.
Mais non, on se connaît pas.
Un artiste, un névrosé qui se soigne.
En dansant.
C'est le mec.
Donc, en jouant.
Non.
En s'amusant.
Oui.
En nous amusant, en les amusant.
Donc, il se soigne comment ?
En jouant. En jouant.
Oui, alors c'est pas un participe.
Par la performance, par le jeu. Par le jeu, par le.
Par la scène.
Par la parole.
Par le texte, par le public.
Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter.
C'est quoi ?
Qui se soigne par lui-même. C'est pas par ce qu'il fait, il est lui-même et le patient et le docteur. C'est ça le.
Oui, j'imagine le principe, oui. Ouais. C'est pas moi. Je crois que c'est une phrase de Nietzsche.
Ah, je crois que c'est Tavernier.
Mais Tavernier l'avait utilisé sûrement lors d'une conférence ou d'un festival, mais non, pas sur Sinoche.
Pour revenir, non, ce qui est intéressant par rapport à votre spectacle, c'est le côté névrosé, parce que c'est vrai que on peut se dire aussi qu'on rentre un peu dans votre tête avec ce spectacle et dans votre.
Oui, mais moi, je rentre dans la tête de personnage.
Bah oui, mais indirectement, il y a un peu de vous dans chacun, non ?
Ah, forcément.
Dans leur folie.
Mais nous, moi, je prends l'artiste comme un instrument, surtout un artiste interprète. C'est-à-dire qu'on est l'instrument de quelque une chanteuse, c'est un vecteur, on est la voix de au service d'un comment on appelle ça
d'un texte.
Oui, d'un texte de composition, de comment on a de texte, de situation, etc. Mais tout ça pour dire que on se sert de nous, mais au contraire, dans quelque chose de pur et de comme un instrument, comme une clarinette. Mais voilà. Et c'est pour ça que la danse a m'apporté beaucoup, parce que j'avais tout de suite la conscience que en tant que danseuse, mon corps était l'instrument. On est d'accord. Plus que le corps, hein.
Ouais.
Et ben c'est pareil pour un acteur ou un. Moi par exemple, j'adore composer des personnages, mais c'est en fait mon moteur. Vous savez ce que c'est ?
De l'être.
Faire
vraiment,
rire,
le plaisir.
Le plaisir de jouer.
D'accord.
Voilà, moi c'est vraiment j'ai un goût exacerbé pour le jeu.
Mais avec comme but le résultat de faire rire, de faire réagir en tout cas,
ou pas.
De créer des émotions.
Ou pas.
Le fameux ou pas.
Bah, le fameux ou pas qui dit que, bah oui, parce que je peux aller dans le drame ou la tragédie. La tragédie, moi, j'ai moins accès.
C'est vrai que j'ai parlé d'émotion et pas
d'émotion, unique,
pas
ouais.
uniquement
ouais.
de.
Mais pas,
de
je
rire.
Cherche pas forcément à faire rire en plus. C'est marrant, hein. C'est
ouais,
comme ça.
Parce que c'est quand même ce qui se passe. C'est que chaque personnage fait rire.
Alors oui, mais c'est pareil. C'est, je suis pas dans un humour de la vanne, moi, tu vois.
Non.
Donc il y a
mais
pas
de,
ce
mais
truc
de, la, de. Mais de la situation et puis.
Et même physique. Il y a certaines postures qui sont irrésistibles.
Complètement. Ouais, ouais. Donc mon école, ouais. ça va être plus Jacques Tati en plus. Ouais. Moi, je suis même pas forcément. J'aime les mots, j'aime la langue française profondément, mais Je viens du corps, il n'y a pas...
Alors justement, pour le corps et en repartant sur la danse, est-ce qu'il y a... Parce qu'il peut y avoir des moments où on se dit elle est totalement impudique, elle se sert et elle joue avec son corps sans aucune limite.
Mais parce que je pense qu'un acteur est impudique. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est impudique. Il doit passer le sas de la pudeur. Il y a la pudeur physique et la pudeur, on vient d'en parler, émotionnelle. Un acteur, s'il passe pas ça, ben, c'est pas un acteur. Donc, la pudeur émotionnelle, c'est balèze.
Donc vous n'avez aucune crainte à montrer n'importe quelle partie de votre corps sur scène ?
Si, j'en ai. Alors ça n'enlève pas la peur ou la crainte, mais on doit les dépasser. On doit les dépasser. En tant qu'acteur, tu dois.
Vous êtes auteur et interprète, vous n'êtes pas obligé de dire « je vais monter sur scène » en maillot de bain ou seins nus.
Ça fait partie du job, parce que tu sers...
Parce que vous le décidez.
Tu sers ou un auteur, ou une situation, et si t'écris pour toi, ou tu vas chercher là où t'as écrit, où t'as voulu le...
Vous aviez, et on retrouve ça dans le spectacle « À ma place, vous feriez quoi ?» dont on va parler, ou dont on parle en tout cas, à partir de la semaine prochaine au Théâtre de l'Atelier, vous aviez marqué les esprits au César, avec le Nipplegate, pour reprendre l'expression américaine, c'est-à-dire vous laissiez, c'est même beaucoup plus malin et beaucoup plus talentueux que ça. C'est pas je montre un sein sur scène, c'est que par les mouvements et dans votre manière de parler, dans vos gestes, au fur et à mesure, il y avait un bout de sein qui commençait.
Mais c'est jamais intentionnel, hein. À chaque fois vous débrouillez pour qu'il sorte tout seul.
C'est intentionnel, c'est totalement intentionnel.
On n'écarte pas la robe.
Il y a tout un truc à dire là-dessus, parce qu'en fait, c'est le téton qui sortait juste. Ouais. Et en fait, si on... C'est marrant de dire ça comme ça, mais c'est...
Mais vous dites quoi ?
En fait, ce qui est quand tu fais rire, justement, c'est que ça peut venir d'un accident. Les accidents dans le comique, dans la comédie, sont des cadeaux. Et ça, pour tous les gens qui font de la scène, il faut en avoir conscience, parce que il t'arrive une... Un gag, c'est un accident, par exemple. Chaplin, ce que je veux dire, au départ, c'était un accident, répétition.
La gaffe, tout ça. Ah ouais.
Parce que je l'avais créé pour ce personnage toujours la même, de Martha, il y a à peu près une quinzaine d'années.
C'est ça que je ne savais pas.
Et je répétais, j'étais en improvisation, parce que j'adore l'improvisation, et mes spectacles viennent souvent de là. Donc je répétais devant quelqu'un qui était témoin. Et à la fin, il me dit, oh, mais c'est énorme le coup du sein, et moi je fais le coup du sein. Il me dit, mais
donc vous aviez un bustier.
J'avais une robe qui était à ma grand-mère, que à l'époque j'étais toute fine, et la bretelle tombait. Alors moi je croyais que ça faisait un truc assez, tu sais, un peu
sexy.
Donc et puis c'était
naturel.
À l'époque quand je l'ai créée, elle était créatrice de mode.
D'accord.
Et alors et puis en fait non, ça allait jusqu'à ce qu'on découvre le téton. Et donc je l'ai gardé, je l'ai utilisé, mais comme le coup du stylo que je faisais, qui est un petit peu plus, un peu moins peut-être pudique, un peu moins pudique, et où tu parles à quelqu'un, tu te rends pas compte que tu te fous du stylo,
au fur et à mesure,
que j'avais utilisé sur le visage. Et c'est pareil,
vous voyez comme quoi l'interprétation quand on est dans le public, pour moi c'était une référence aux marches du Palais des Festivals, et que c'était une manière d'en faire un sketch, et c'était totalement voulu et pas un accident de répétition. Et en plus quand je le revois sur scène, là, dans À ma place, vous feriez quoi ? Je me dis, ok, là, maintenant, elle a ça dans son personnage, c'est-à-dire, c'est une créatrice Martha, qui est dans ses mouvements, laisse parler ton corps, c'est la mode, c'est naturel, et ainsi de suite. Il y a une bretelle qui tombe, il y a un téton qui sort, et on entend la salle, et on est dans la salle, et on explose sous le rire en disant, elle est trop forte, elle fait exprès, très naturellement, vous remettez la bretelle, vous remettez et vous continuez de parler, et ça arrive une deuxième fois. Donc on se dit que c'est une chorégraphie.
Non mais j'ai eu pire, j'ai eu les deux bretelles qui tombent simultanément.
Il faut prendre la bonne taille.
Et là, t'as carrément la paire qui s'offre au public. Et alors là, carrément, ça hurle dans la salle.
À la générosité de l'acteur.
Oui, c'est ça. Exactement. Bravo.
Et non, mais c'est toutes les comédiennes ne font pas ça, toutes les actrices ne font pas ça d'une manière récurrente et tous les soirs.
Il faut avoir des seins, quoi.
Non,
pas forcément. Non, c'est pas une question de. Ils étaient plus petits avant, d'ailleurs. Ils étaient plus petits.
Lila, je vais t'offrir un truc.
Ah, ça va.
Non, mais oui.
C'est sans limite.
Oui, moi j'aime bien.
Y compris celle l'américaine en roller, elle est sans limite aussi.
Voilà, moi j'aime bien le sans limite, surtout dans l'humour, surtout dans. En fait, je crois qu'il y a le truc qui est un point important que j'ai réalisé, c'est le dépassement de soi, en fait. Ça me dépasse un peu tout ça aussi, quelque part. C'est-à-dire, je suis consciente de tout ce que je fais, de tout ce que j'écris quand même, heureusement. Mais je pensais pas que l'effet du sein, du téton, allait prendre cette ampleur. Si
oui, parce qu'on l'attend maintenant, en fait.
Ouais, je suis d'accord.
Tu le veux maintenant, c'est ça que tu
non,
veux
on l'a, c'est vrai que si c'est,
vous,
c'est,
on l'a, non, mais on l'attend.
Si sur scène, au théâtre de l'Atelier, il n'y a pas ce moment-là, alors qu'on en parle, alors que on l'a déjà vu précédemment, on se dit tiens, elle le fait plus.
Ou on l'attend, on se demande quand il va arriver.
Bah ça m'est arrivé de jouer Martha sans ça, ouais.
C'est vrai.
Ouais, mais je lui foutais le pen du coup, le stylo. Je lui mettais le stylo du coup à la place.
Très bien. À ma place, vous feriez quoi? C'est au théâtre de l'Atelier à partir du 4 juin, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. Et on peut l'annoncer, Jean-Philippe Manœuvre.
Yes!
C'est déjà un succès.
Énorme succès, Nagui. Ok, je suis complètement d'accord avec la super analyse, ta super analyse, qu'avec tes mots à toi, faut le dire, tu viens de faire de ce show. Alors, ok, c'est vrai que Julie Ferrier incarne des créatures toutes plus frappées les unes que les autres. Ok, c'est vrai que dans un enchaînement de tableaux imprévisibles, Julie et ses boys, en alliant la musique, la dance, la comédie, les clowneries, le dressage, le mime et le coup du téton. Marie, en les renouvelant, l'esprit du cabaret, la magie du musical et l'ambiance du cirque. Ok, c'est vrai, on baigne dans le burlesque pur. Seulement voilà, il manque un truc dans ton analyse,
quoi,
Nagui. Yes, something is missing.
J'avais compris, mais...
T'as oublié de dire... Ouais, t'es bilingue. T'as oublié de dire que ce spectacle, c'est un fucking good rock show.
C'est vrai.
Yes,
c'est
completely vrai. Rock. Julie, c'est une vraie bête de scène. Putain, le rythme d'enfer, l'énergie, celle d'une Tina Turner au JFK Stadium quand elle chante à State of Shock avec Mick Jagger qui avait du mal à la suivre à cause de son arthrite. Déjà en 85. Des cums qui ont pas de mal à suivre Julie Ferrier, c'est ses cat boys. Putain, ils assurent! Quand ils dansent travestis en robe de mariée ou en kilt avec Karine, la cagole en roller, j'ai cru revoir se trémousser les New York Dolls le 28 mai 71 à la Factory. J'y étais avec mon cousin, période Andy Warhol, avant que le batteur Billy Murcia me rétouffait en mangeant un œuf dur! Ouais, comme le rappeur Prodigy le 20 juin 2017. Bref, pour Julie, ça va marcher à donf, même si juste avant l'émission, Nagui, quand t'as demandé le titre du spectacle à GNB, notre rédac-chef, et que celui-ci t'a dit « À ma place, vous feriez quoi ?» Tu lui as répondu en lui tirant la barbe et les cheveux « Arrête tes jeux de mots à la con et dis-moi pourquoi elle vient la Ferrier ?» Voilà, dire Julie comment se prépare la bio. Dans le mépris des calembours, les sévices pileux et l'oubli du rock'n'roll. So long, bonne émission quand même.
Merci Albert Lou.
France Inter, Maggie. La bande originale.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de musique dans ce spectacle.
Ouais, énormément. Beaucoup dans le solo, il y en avait aussi beaucoup. Et là, c'est pareil, je suis un peu mélomane,
ouais,
comme toi.
Vous êtes un peu né là-dedans. Et puis, en fonction des soirées, il y aura la version française de... Tellement drôle.
Ouais. On aurait pu la passer, d'ailleurs.
Bah non, il faut aller au spectacle.
Ah oui.
Voilà, c'est tout.
Cela dit,
moi j'aime le cowboy.
Chanté par Covarea. Ah,
cowboy. Ouais. Moi j'aime le cowboy.
Est cow-boy.
Tellement drôle. Le cowboy moderne, comment il s'appelle
le cowboy moderne.
Le cowboy moderne.
Lui il sera là qu'en juillet.
Très bien.
Il est un peu comme je vous ai expliqué, il y a une alternance. C'est déjà que c'est complexe ce spectacle, mais alors franchement là je me suis mis à un truc.
Non, mais moi j'ai.
C'est l'alternance des acteurs.
On est un peu au cabaret, on est un peu au cirque. Il y a des numéros.
Oui, c'est ça.
Et les numéros peuvent être totalement reliés les uns aux autres avec une fluidité. Et puis après, vous pouvez déconstruire ce spectacle, le reconstruire différemment en fonction de la présence de tel ou tel artiste.
Exactement.
Mais c'est
un. Il
n'y
a pas de conducteur, donc.
Mais on a pourtant l'impression qu'il y en a. On a pourtant l'impression qu'il y a une histoire et qu'on rentre dans un univers. Et en compagnie de, et puis on s'attache à certains personnages. Et ce que j'adore, c'est au moment du salut, quand chacun vient reproduire ses 3-4 personnages avec leur manière de saluer, leur chorégraphie.
Ouais.
C'est fort.
Ouais, ouais.
Puis on les reconnaît.
Carby et Ben, ou Ben et.
Ah, ça, c'est mon prochain spectacle.
Formidable, ça.
Merci.
À ma place, vous feriez quoi? C'est au théâtre de l'Atelier avec Julie Ferrier, qui est notre invitée. Jusqu'à midi et demi, voici
non,
Marina.
La
madrilène. Aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler de celles qu'on oublie trop souvent.
Qui?
Que je crois, jamais publiquement remerciées, alors qu'elles ont toujours été là avec des hauts, des bas, mais elles m'ont jamais quittée. Au dire de certains commentaires sur Internet, d'ailleurs, c'est à elles que je devrais ma carrière, et même si c'est pas tout à fait vrai, c'est pourtant une réalité que pour chacune des chroniques que j'ai faites sur France Inter jusqu'à aujourd'hui, elles étaient là, elles me soutenaient. Je veux bien évidemment parler de mes fesses. Car ça y est, on est à même pas un mois du début de l'été. Coup d'envoi dans l'hémisphère nord de la saison de la fesse. Et il faudrait donc, comme pour pour une charolaise avant le salon de l'agriculture, préparer la fête à l'événement, à sa gloire qu'elle était. On devrait, si on en croit les affiches et les vitrines, consacrer un petit 15% de notre salaire et agenda hebdomadaire à la fesse. Il faut, semble-t-il, soigner la fesse, augmenter ou affiner la fesse, raffermir ou arrondir la fesse, relever ou bomber, palper, rouler, épiler, décelluliter, bronzer, gommer, hydrater, mais surtout montrer la fesse. Et avant-hier, alors que je me demandais ce que j'allais mettre et que je me baladais donc nonchalamment à Walp, mais en chaussettes, ce qui m'arrive vraiment beaucoup plus fréquemment que la décence et le bon goût ne devraient me l'autoriser.
C'est vrai, c'est
par
vrai.
Un jeu de double miroir inédit sur qui je tombe, mon Huc. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Ça faisait des mois qu'on s'était pas vu, tu vois. C'est commencé l'hiver, le boulot, les gosses, t'annules un dîner, après t'oses pas rappeler, vacances de ski, etc. Et en fait, ça faisait 8 mois qu'on s'était pas vu avec mon Huc. Donc moi, j'étais, ah waouh, comment tu vas, la baisse, la famille, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'habite ici, mais non, c'est dingue, moi aussi. Bref, truc d'usage, on prend des nouvelles, tu vois. Qu'est-ce que tu deviens? Bah, écoute, bah, ça va, mais en ce moment, je bosse avec un trou du qui me dit, ah, mais je mince, je croyais qu'il était sympa, Morin, etc. Bref, très cool.
Parce que tu parles de qui?
De Morin.
Bref, du Huc sans fesses.
Voilà, exactement. Ouais. Bref, très cool, il a l'air d'aller bien. Et on n'a pas fait long parce qu'il avait un rendez-vous et il se trouve que moi aussi. Bref, en se quittant, je le regarde comme ça, un peu de derrière. Et franchement, je lui ai pas dit, mais il avait mauvaise mine. Oh là là, flappy et tout.
Tout blanc.
Mais tu sais, mais je me rappelais, ça fait des années qu'on se connaît avec mon Huc, et je l'ai connu, c'était deux pamplemousses, tu vois. Équipe de beach volley brésilienne, bien en place, fière de lui, dynamique. Mon Huc, il y a une période, je me rappelle, il était disruptif, mais ferme, tu vois, il était néolibéral, chef d'entreprise, né dans les privilèges, mais moderne. Je l'ai connu, il votait La République En Marche, mon Huc, il doutait de rien. Ah ouais. Et là, mais il a une tête. Franchement, ça me fait de la peine de le dire, mais mon Huc, il a une tête de Huc, vraiment. Il est dégueulasse, il fond sur les côtés, on dirait les horloges de Dali, je te jure, c'est le bordel. Tout le monde parle d'épaule, je vous jure, mon Huc, il est affecté par le réchauffement climatique aussi. Bientôt, c'est plus un Huc, c'est une plaque. Vous vous rappelez de cette série Les Incroyables Pouvoirs d'Alex Mack?
Oui.
Ouais. La meuf qui se liquéfiait là, bon bah pour ceux qui savent, mon Huc, c'est Alex Mack. Bientôt, mon Huc, il passe sous les portes, ça va pas du tout. Et en même temps, il allait super bien. Il est super à l'aise dans sa vie. À vrai dire, il est plus épanoui que quand il avait sa tête de pamplemousse du CAC 40, là. Il est marié à un homme merveilleux. Il a un taf qu'il aime. Il a une famille et des amis géniaux, des collègues pour la plupart pas ou peu contagieux. Enfin, vraiment. Mon Huc, il a une belle vie, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi? Il va bien, ton Huc. Il est bien dans ses baskets, ton Huc. Et bah, tant mieux pour lui. Summer Body, c'est pour everybody. Ton Huc, le principal, c'est qu'il soit heureux. Et donc, c'est un message pour tous les Hucs du monde entier. Et toutes les seufs, on est en 2019, il n'y a pas de discrimination. Vous rayonnez. Voilà, on a plein d'autres trucs plus importants à faire que d'essayer de bosser sur vous. Donc, vivez vos vies de Huc comme vous l'entendez et profitez bien de votre été.
Merci, Laura. La bande originale,
Maggie.
Tu l'as casé le seuf, hein, quand même.
Oui, j'ai casé mon petit seuf.
Titonné. Merci Marina Rollman. Judy Ferrier et compagnie. J'aime bien cette notion de troupe. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas marqué Judy Ferrier en scène, non? C'est Judy Ferrier and Co.
And Co, ouais.
Ouais.
Et en fait.
Ça avant... vous est venu comment l'idée de ne pas être seul?
En fait, c'était avant le solo, c'était ça que je faisais. J'étais en compagnie subventionnée chez Alain Molo, là, au théâtre de la Jacquerie. Mais à côté de ça, parallèlement, tous les, on va dire, les week-ends, je faisais un petit peu comme de la récréation à l'espace Confluence, j'organisais des cabarets pendant 3 ans. Ouais. Et fou, de là est né le solo.
D'accord.
Le premier spectacle, un petit peu où je me suis fait connaître par le public, le grand public. Voilà. Non, je suis revenue à un premier amour, en fait. Tu sais, puisque c'était il y a quand même maintenant 15 ans. Donc, je suis revenue. Après, quand on m'a demandé de revenir avec un nouveau spectacle, évidemment, on m'attendait avec un solo. Et je suis désolée de ne pas avoir honoré. Parce que quand même, quelque part, c'est un honneur d'être désirée dans un deuxième seul en scène. Et non, je ne suis pas revenue avec un seul en scène. Je suis revenue avec une troupe.
À la fois, c'est malin. Parce que ça donne une progression. Et il n'y a pas de comparaison possible avec le seul en scène. Et à la fois, c'est une contrainte supplémentaire que vous donnez. C'est-à-dire celle de trouver des caractères, des personnages, de l'écriture, des artistes. Et puis d'augmenter, le budget aussi. Parce que seul en scène, on se dit, voilà.
Bon, t'as tout compris, Nagui.
On a que soi à gérer. Là, on rajoute du monde et des contraintes.
En ayant fait le solo, je pensais que j'avais touché la chose la plus difficile. Comme j'étais une danseuse avant, j'avais déjà mis la barre haut, mais là, en faisant du seul en scène, je me suis dit, ah non, j'ai trouvé plus dur encore, le seul en scène. Eh ben non, j'ai trouvé encore plus dur. C'est écrire, mettre en scène, jouer avec des comparses et jouer dedans. Je pense que là, je vois pas comment on peut faire plus dur.
Non, vous allez trouver plus dur pour la prochaine fois encore.
Non, je pense pas.
Si, c'est bien de repousser ses limites.
Non, j'aimerais. Non, c'est. Mais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je suis contente, je suis très contente. Pour moi, c'est une chance incroyable de jouer au Théâtre de l'Atelier avec ces garçons que j'adore.
Qui est un beau lieu, en plus.
Ouais. En plus, tu sais, c'est vraiment des garçons en or. Pourquoi ? Parce que humainement, ils sont aussi riches qu'artistiquement. Et vraiment, je le pense.
Joli. Julie Ferrier et compagnie, à ma place, vous feriez quoi? À partir du 4 juin jusqu'au... Il y a déjà une date butoir, c'est
mais
quoi?
Venez, 31 juillet. Venez, maintenant. C'est un peu comme
très
au Cinoche.
Très bien.
Attendez, quand des films sortent, n'attendez pas.
Pour aller les voir.
Donc on vous dise, ouais, c'est bien, allez-y. Parce que sinon, les films ne restent pas à l'affiche. Et ben, c'est pareil pour le théâtre maintenant.
À partir du 4 juin, 21h, donc Julie, au Théâtre de l'Atelier à Paris. La musique est très présente dans ce spectacle cabaret, évidemment. Et la musique présente dans sa vie. Alors, elle a vraiment travaillé sa bande originale, Julie, puisqu'elle est juste, même carrément venue avec des musiques pour que nous écoutions, par exemple, cette bande originale de Hair. I got my hair, I got my head, I got my dreams, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth. Tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my... John Savage, I Got Life, dans Hair. C'est une comédie musicale qui...
De 79, de Milos Forman.
Ouais.
Le film, j'avais 9 ans quand je l'ai vu, grâce à ma cousine Karine. Franchement, j'ai choisi cette chanson, parce que c'est justement l'hymne à la liberté, totale, mais le film ne parle que de ça. Et Forman, c'était son fort. Il parlait que de liberté, lui qui était un immigré. C'est tellement important pour moi, la liberté. Et souvent, c'est quand on me demande, tu vis dans le luxe. Mais le luxe, c'est quoi en fait? C'est la liberté. Et donc pour moi, ce film, ça a été une révélation, un dénominateur. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire quand je serai grande. Chanter, danser, vivre, être libre. Et voilà, c'est ça, c'est ce film qui m'a donné, et c'est vraiment le film, hein. C'est pas la version française.
La comédie musicale sur scène.
Cheveux.
Ouais, d'accord.
Non, c'est pas...
Cheveux.
Ce n'est pas pareil. C'est important de le préciser, parce que au niveau musical, ce qu'ils ont fait, et le film, ce qu'il est,
Air,
c'est vraiment... Enfin, bon. Je sais pas si vous avez aimé.
Non. C'est bien d'avoir choisi autre chose que Let the Sunshine In qu'on a tous en tête. C'est vrai que ce titre-là, Got Life, c'était puissant en plus.
Et on est en 85. Vous l'avez raconté tout à l'heure. Vous décidez de devenir danseuse professionnelle. Vous avez 14 ans. Votre mère est hyper heureuse comme ça. Cette énergie va pouvoir être évacuée.
Canaliser
la soupape.
Canaliser, c'est mieux. Ouais.
Oui. Et en même temps, elle est pas complètement étonnée. En tout cas, dans la famille, vous êtes artiste depuis 7 générations.
Ouais,
c'est
6-7 générations. Ma arrière-grand-mère, Cécile Guyon, était dans la troupe de Louis Jouvet et jouait avec Max Linder. On peut la retrouver dans des films avec Max Linder, Cécile Guyon.
Génial.
Et votre mère était comédienne aussi.
Ma mère était comédienne. Mon oncle, Laurent Ferrier, était metteur en scène, cinéaste, premier assistant. J'ai un cousin, David Ferrier, qui est aussi réalisateur pour la télé.
Oui.
Et...
Donc c'était pas tout d'un coup une catastrophe à la maison.
C'est pas une catastrophe, c'est une aubaine. Non, mais c'est absolument extraordinaire en fait, en vérité. Voilà. J'ai une chance. J'ai une chance incroyable.
Ce qui est extraordinaire, c'est que la famille comprenne, quoi. C'est que
elle soutient, elle porte, elle dès le départ, elle te donne envie aussi, parce que je suis devenue comédienne un peu sur le tard, un peu après, hein, puisque j'étais d'abord danseuse, mais chez nous, c'est presque normal, hein, d'être artiste.
Oui, c'est le contraire qui aurait été étonnant. Ouais, papa, maman, je veux être notaire. Oh mon Dieu,
On a perdu notre fille. En 1990, vous écoutiez Prince.
Parce que beaucoup d'énergie en 90, Julie Ferrier. Non seulement vous entrez au conservatoire d'art dramatique, mais en plus, le soir, vous suivez des cours de l'école de cirque d'Annie Fratellini.
Et la journée, je danse pour Drucker. J'ai dansé sur cette chorégraphie pour des Américains aussi. Je fais mon premier voyage aux États-Unis. Et je suis danseuse professionnelle, et le soir, je suis un peu comme Nagui, j'aime ce que je fais, je vais à l'école Fratellini, et j'apprends à jongler, à marcher sur une boule, et puis après je m'inscris au conservatoire d'art dramatique.
Vous pensez qu'elle existe toujours, cette école?
Ma journée commence à 9h, elle se termine à 23h.
Cette école Fratellini, elle existe toujours?
Fratellini existe toujours. Madame Annie est partie, mais sa fille, c'est sa fille qui a repris l'école.
Et c'était important quoi d'avoir une sorte d'approche complémentaire.
Ben ou oui, là on rejoint R, ce côté comédie musicale quoi, le côté pluridisciplinaire. Et d'ailleurs à l'époque, on me disait ah tu te disperses, Julie, fais attention, parce que c'était pas dans la culture française tant que ça, mais voire presque pas. Et puis en fait,
il faut apprendre à tout connaître, à tout savoir, tout ce que l'on peut faire sur scène, parce que danser c'est une chose, jouer la comédie c'est encore une autre chose, être fil de feriste ou jongler ou faire de l'acrobatie c'est encore autre chose. Toutes les actrices, toutes les comédiennes ne sont pas obligées de savoir faire tout ça.
Ah bah non, on était obligé de rien, de toute façon tu le fais. Non
mais donc c'est une envie de ne pas passer à côté de quelque chose, c'est ça?
Bah c'est une envie, c'est-à-dire... Par exemple, je joue la comédie musicale Barnum, j'ai eu quelques années après ça là. Bon, je suis dans la comédie musicale au Théâtre des Célestins à Lyon, Barnum c'est un livret, c'est une comédie musicale, et puis dans l'orchestre il y a des trombones. Et je me sympathise avec les trombonistes, et je trouve l'instrument dingue. 6 mois après, j'en joue.
Ça a marché
toujours comme ça dans ma vie. D'accord. C'est des coups de cœur, c'est mon cœur qui me porte.
Ok, mais on n'est pas obligé de réussir tout ce qu'on essaye. Donc
exactement, il n'y a pas de... Il y a forcément une performance, mais comment dire, moi, je n'ai jamais été carriériste, en fait.
Non, mais on a l'impression que vous êtes doué pour tout. Donc
Non, je ne suis pas doué pour tout. Tu veux que je chante?
Non, mais là, dans vos choix, on voit toujours la contagion du film. R, c'est « je veux être capable de faire ce qu'ils font, de danser, de jouer ».
Mais ce n'est pas « je veux être capable », c'est vraiment...
J'ai envie d'essayer.
C'est de l'amour. Mmh. Ben, c'est de l'amour de l'art, en fait. J'aurais adoré être choriste pour, je ne sais pas...
C'est ça qui vous manque, c'est la voix? C'est le chant?
Non, le chant, c'est ce que je maîtrise le moins, je trouve, hélas.
Mais ça se travaille aussi.
Ah ben, je l'ai travaillé, hein. J'ai quand même chanté dans des comédies musicales. Je chante dans mon spectacle, dans le dernier, à la fin.
Non, mais
je fais un medley en homme.
Ouais, mais...
Mais c'est un medley.
Pour faire rire.
Ah bon?
Ok.
Bienvenue, bon. Nagui.
Ah merde, voilà. C'était pas le but. Ok, en 2004, vous écoutiez...
C'est mon jeu, ça me fout peu dans la joue, c'est un jeu. La vérité en face, c'est Julie.
Non, j'écoute pas ça, hein.
Alors ça c'est quoi?
C'est Juan Rosoff qui a composé ce morceau pour moi. Il dit c'est Julie, la vérité en face c'est Julie. C'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ta pour être ta grand-mère. C'est Juan, c'était le spécialiste de la funk à la française.
C'était
un peu comme un Sinclair, mais de Montreuil. La vérité.
Ça c'était pour le spectacle?
Ça c'était pour mon seul en scène, voilà. C'était la musique des saluts.
Aujourd'hui c'est férié.
Si on écoute les paroles.
Mets les poings sur les la vérité en farce, c'est Julie.
La vérité en farce, c'est Julie. Ah bah il fait ce qu'il peut. Hein, moi. Bah, c'est du sur-mesure, on compose un morceau
c'est
pour
chic,
toi.
C'est chic.
Moi j'étais toute contente à la fin quand jouais, je sais pas moi, au Casino de Paris et puis t'as 1400 personnes et toi t'es là, t'as ton morceau. C'est un petit peu, ça pour le coup il y a un côté je pense un petit peu, on pourrait friser sur, pas mégalo mais c'est mon petit côté mégalo. C'est un de mes compositeurs français préférés, Juan. Ouais. Si un jour on m'avait dit Juan fera une musique pour toi, pour ton spectacle, pour ton final,
vous ne l'auriez pas
ou cru. Un jour tu joueras aux côtés de Jean-Pierre Marielle et vous aurez une histoire d'amour platonique au cinéma, j'aurais fait ouais bien sûr, c'est ça. Ou tu joueras un jour au Théâtre de l'Atelier. Tu vois ce que je veux dire, si on m'avait dit ça 10 ans auparavant, j'aurais rigolé, j'aurais dit non, voilà.
Et c'est aujourd'hui, vous très dites, heureux. Après avoir vécu tout ça, vous dites que tout est possible.
Tout est possible.
Ça dépend de quoi alors?
De soi. De nous-mêmes.
Que de nous-mêmes?
Beaucoup.
Ouais.
Et revenons à ce premier spectacle.
2004, hein, donc. Aujourd'hui.
Elle fait carrément des dessins.
Elle écoute, ça. Marina, c'est sa façon d'écouter. En 2004, c'est votre premier one man, on l'a dit. Aujourd'hui, c'est férié. Qui va rester 3 ans à l'affiche.
Oui. Non, mais j'ai tout entendu, je peux répéter ce que tu as dit.
Bien sûr, bien sûr.
Il va rester 3 ans à l'affiche, il aurait pu rester plus longtemps.
Vous décidez d'interrompre ou...
Pour le cinéma.
D'accord, d'accord.
Qui m'ouvre ses portes, et alors ça se refuse pas.
Ouais. Et vous étiez quoi? Il n'y a pas un moment de lassitude aussi, 3 ans, avec le même
spectacle? Ah non, il n'y a pas de la lassitude, il y a de la fatigue.
Oui,
parce qu'à l'époque, je suis à la télé, je suis au cinéma, et je suis en tournée. Je descends à 7 de tension, je fais 2 années comme ça, et après je dis, ok, on va travailler différemment férié. Je vais arrêter la scène. Et je passe au cinéma pendant 9 ans, 10 ans. Je ne fais que du cinéma pendant 9 ou 10 ans. J'arrête la scène pendant 9 ou 10 ans.
Le déclic, c'est de se dire quoi? J'ai 7 de tension, je me mets en danger. C'est vous qui êtes capable de vous le dire
trop,
ou quelqu'un vous le fait remarquer autour de vous?
C'est Isabelle Nanty.
C'est marrant parce que tu parlais d'énergie tout à l'heure.
Isabelle Nanty, vous mettez en scène.
Super, mais à un moment, il y a des limites. Quoi.
Ouais.
C'est quoi? C'est la fatigue? C'est le corps qui
envoie
des signaux?
Non, c'est la fatigue, ouais. C'est la fatigue, ouais. C'est vraiment la fatigue. Ben, je pouvais plus, quoi. T'imagines, j'avais trois casquettes, dont un seul en scène. Enfin, ça, c'était trop. Mais c'était heureux, hein. Et tu sais, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai arrêté juste quand j'ai commencé à vraiment sentir la grosse fatigue arriver, pas celle où je vais jouer, je suis fatiguée ce soir, mais je vais tout donner quand même. Non, non, celle où tu pleures, où t'es chez toi, tu fais « je peux continuer ». Bah, ce qu'on appelle, hélas, le burn-out. Ouais. Donc, j'étais juste avant.
Et Isabelle Nanty vous a mis en scène, qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans son regard?
Elle m'a apporté...
À part sa bienveillance légendaire.
Exactement, ouais. Sa bienveillance légendaire et je dirais sa générosité notoire et...
Elle a apporté une carte aussi, entre guillemets, parce que Isabelle Nanty est reconnue par beaucoup d'artistes comme étant une metteur en scène de évidemment de qualité, de renom, et puis c'est chic quoi que Isabelle Nanty mette en scène un spectacle aussi.
Complètement, c'est une très belle carte de visite. Ouais. Et puis, et surtout, elle a dit oui sur le champ. On avait fait une représentation pour elle à l'espace Confluence, encore une fois, où je faisais les cabarets.
Parce que vous cherchez quelqu'un pour la mise en scène.
Pour reprendre la mise en scène, d'accord. Parce que j'avais tout fait, presque toute seule. Mmh. Donc, c'était bien d'avoir un regard extérieur. On a fait venir plusieurs metteurs en scène différents, je ne vais pas en citer les noms. Et non, tu voudrais?
Non.
Non, mais voilà. Et il y avait Isabelle, elle a dit en tout cas, moi, je le fais. Hein. Comme ça, avec un sérieux qu'on lui connaît parfois. C'est vraiment, moi, je le fais. Hein, si... Et c'est marrant parce que je la voyais dans la salle et elle rigolait pas. Mais en fait, elle était...
En train de réfléchir à ce qu'elle pouvait faire.
Elle était dans une écoute, ouais. J'imagine.
Elle était déjà en train de faire sa mise en scène.
C'est ça. En 2011, alors plusieurs musiques. On va commencer par ce jingle. Ce jingle, et ben là, c'est un travail que vous avez fait à deux, hein, c'est ça?
Avec Mathieu Chédid, M.
Ouais.
Alors ça, c'était une série télévisée qui remplaçait un petit peu, on pourrait dire, le créneau de Chouchou Loulou, hein, c'est ça?
C'est ça. Avant 8h.
Un gars, une fille, pardon. Ouais. Donc, ça s'appelait Mademoiselle. C'était toute une... C'était une série télévisée que j'ai fait une saison. Et Mathieu Chédid avait fait la musique du générique.
Et le petit jingle, c'était...
Ça aussi, je suis hyper fière. Enfin, je suis hyper contente. Pas fière, mais bon, maintenant, j'écoute plus tout ça. Hein. Mais c'est vrai que là, comme on revient dessus, ça me...
Non, mais c'est une musique qui d'abord montre une période de votre vie importante, une exposition médiatique importante. Être avant le 20h en quotidienne, c'est
une
pression.
En rôle principal, voilà. Et en co-auteur, en plus. Voilà. C'est mon cousin qui réalise, il y a ma mère qui joue dans la série. Mon autre cousin a fait la pochette du DVD en tant qu'infographiste. J'avais mis toute la MIFA. Mathieu, chez Dite, qui avait fait un collègue, pote. Un pote. Ouais.
C'est la famille de Saltimbanque. En 2011, vous écoutiez Pauline Croze.
Tu es, depuis que tu es parti, tu es partout. Tu es, depuis que tu es parti, tu es.
Et 2011, partout. Vous êtes nommée au César, Julie. Au César de la meilleure actrice dans un second rôle, c'est pour L'Arnaqueur, un film qui a remporté un grand, grand succès. Là, se dire que après tout l'itinéraire qu'on vient de brosser, la danse en tant que professionnelle, l'arrivée dans le milieu de la scène, puis du cinéma, on a bien fait de s'arrêter, d'arrêter Swan Man Show pour se consacrer au cinéma. On se dit ça à ce moment-là, que c'est le bon choix?
Non, on se le dit pas. On hallucine d'être nominé pour une comédie, déjà, au César. Parce qu'il y a très peu de comédies, ouais.
Ouais.
C'est un joli cadeau.
Est-ce que le cinéma n'est...
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais. Non, mais en fait...
On sent un peu de nostalgie dans...
Oui, c'est pas de la nostalgie, c'est... Bon, déjà, Pauline, c'est quelqu'un qui me fend le cœur en deux, donc...
Là, on parle de la chanteuse Pauline Croze, ouais. Qu'on entend, ouais.
Et c'est un des derniers morceaux qu'elle a composé, c'est sur son dernier album, qui est un hommage à sa mère, Maman. Après, elle dit « Maman, tu es partout ». Et tout. C'est un très, très beau moment. J'adore cet artiste. Et non, c'est que pour moi, de revenir tout ça comme ça dans le passé, c'est assez incroyable parce que je me dis « Ah oui, il y a eu tout ça ». C'est-à-dire, je ne vis pas avec ça au quotidien. Et là, de venir avec vous le partager, c'est assez étrange.
Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est... On entend souvent les actrices et les acteurs dire que le cinéma, c'est la culture de la patience, de l'attente. Il faut trouver une chaise pour attendre que tout soit prêt pour travailler. Et vous ne semblez pas être dans cette énergie-là, dans ce rythme-là.
Complètement.
Avec le théâtre, le cabaret, la danse, tout ce que vous avez fait avant.
T'as tout compris, toi.
Où chaque seconde, chaque minute, il faut qu'il se passe un truc, sinon c'est du temps perdu.
Ouais. C'est le cinéma, c'est ça, c'est l'attente.
C'est le problème.
C'est l'attente, tu fermes bien ta bouche. J'avais fait les 5 commandements de l'acteur, d'ailleurs, au cinéma. Tu apprendras bien ton texte, tu seras là à l'heure. Le troisième, tu attendras patiemment.
Tu ne coucheras pas avec ton partenaire.
Non, pas forcément. Et le dernier, enfin, en tout cas, et le dernier commandement, et tu fermeras bien ta gueule. Et je, voilà. Et moi, je n'ai excusez-moi, jeune homme, il est mort de rien. Mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'un acteur, et tu diras toujours oui, on peut le mettre aussi dans les commandements. C'est-à-dire que c'est tout ce que je ne suis pas. Pas forcément sur le oui, parce que c'est un truc que j'ai appris vite, d'ailleurs, c'est dans l'art de l'improvisation. Et on ne dit jamais non, il faut le savoir, c'est une règle, on dit tout le temps oui. Et donc au cinéma aussi, c'est Romain Duris qui m'a appris ça, il m'a dit sur l'arnaqueur justement, Julie, on ne dit jamais non sur un plateau, on dit tout le temps oui. Tu ne discutes pas, tu n'es pas au marché et tout. Et il a complètement raison. Ça c'est un conseil que je donnerais à des jeunes comédiens ou quoi. Jamais dire non sur un plateau télé, mais c'est vrai que un plateau télé, un plateau
si
cinéma,
je peux même quand on le sent pas. Ouais, ne jamais dire non, ça ne veut pas dire oui. C'est-à-dire que ça peut être aussi... Je vais voir, je vais faire de mon mieux.
On n'a pas le temps en fait. Surtout maintenant, on a encore moins le temps. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je n'ai pas, je ne devrais pas le dire, mais les qualités requises pour faire du cinéma. Je ne tiens pas en place. Donc je ne suis pas patiente. Je n'ai pas cette vertu. J'ai pas de patience.
Et je dis non.
Je ne me tais
non,
pas.
Non, alors ça, c'est non. Je te dis ça, okay, ça va. J'apprends mon texte heureusement. Oui, mais ça, c'est le théâtre qui m'a donné ça. Mais non, j'ai pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour moi. C'est un peu compliqué. Mais ça commence à être un peu plus simple, d'ailleurs.
Et là, vous vous régalez. Donc, c'est sur scène avec ce cabaret, pour reprendre la définition que vous en avez donnée et que vous avez faite tout à l'heure. Julie Ferrier et compagnie, à ma place, vous feriez quoi ? À partir de la semaine prochaine, le 4 juin, c'est au Théâtre de l'Atelier. Philippe Mello, bonjour Philippe, nous a rejoint. Vous êtes journaliste et auteur spécialiste du Paris du 19e siècle, auteur d'une dizaine d'ouvrages, avec entre autres Paris sans dessus-dessous, ou encore Paris disparu, La vie secrète de Montmartre, Les Montmartrois, La vie de famille, aux éditions Omnibus. On parle du cabaret et peut-être même du retour des lettres de noblesse du cabaret, si toutefois le cabaret s'était un tout petit peu arrêté ou pas. Est-ce qu'on peut déjà donner une définition de ce qui est cabaret ?
La notion de cabaret, au départ, c'est un cabaret, c'est un marchand de vin depuis déjà, je sais pas, le 14e ou 15e siècle. C'est un bistrot. C'est dans lequel on boit en général. On peut aussi des fois un peu grignoter quelque chose. Mais l'idée même du cabaret, je dirais, surgit à la fin du 19e siècle et à Montmartre justement. C'est vraiment un décor qui s'y prête. C'est l'endroit où tous les nouveaux artistes, les nouveaux penseurs aussi se réunissent désormais. Et donc dans le cadre de ces bistrots, donc qui commencent à être nommés cabarets, qui sont aussi qui vont se partager après en plusieurs disciplines, certains cabarets vont devenir des music halls, d'autres non. Alors il y a le premier de tous, c'est celui qui, ce qu'il faut vraiment citer, c'est que le premier de tous c'est le Chat Noir, c'est Sally, et qui va démarrer, bon il démarre un cabaret un peu à la noix, boulevard de Rochechouart, mais le rejoignent la veille de l'ouverture du bistrot, toute une compagnie de cinglés, une espèce de pré-surréaliste un peu marrant, qui se nomme les hydropathes. Alors bon, les hydropathes, entre autres, bon, c'est toute la confusion avec le fait qu'ils ont la dalle vraiment en pente. Mais en même temps, ce sont tous des artistes, des humoristes, des penseurs, tout ça. Et tout ça, c'est déjà dans les années 70. Puis ils arrivent là-bas, ils sont déjà tous fâchés. Alors, ce qui est amusant, c'est de se dire que il va y avoir une filière, les hirsutes et les utistes, les incohérents, les harensors épileptiques. Enfin bon, on voit déjà dans quel esprit un peu d'humour tous ces gens-là arrivent. Et donc, ils arrivent donc au Chat Noir et puis vont permettre, je dirais, en attirant, en drainant tout leur public, tous leurs amis, dans ce premier Chat Noir du boulevard de Rochechouart, vont aider Salis à décoller.
Oui, parce qu'il a déménagé, le Chat Noir.
Il déménage, et après il descend un peu plus bas dans la rue Victor Massé. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il est remplacé par le Mirliton, donc notre ami Aristide Bruand, qui reprend la place. Salis voulait surtout pas lui vendre, évidemment, l'autre réussit à le faire acheter par la bande, et encore une fois, un nouveau cabaret, là vraiment avec une personnalité aussi, tout aussi dingue que celle de Salice, donc Bruant, qui lui insultait les clients qui arrivaient, les cochons de bourgeois, etc. Alors les gens arrivaient, ah, formidable, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est intéressant.
Ce que fait aussi Michou avec son cabaret en...
Il avait hérité de cette tradition.
En s'amusant aussi avec ses clients et en humanisant ses rapports, tout en faisant un spectacle extrêmement bien calibré. Tout à l'heure, on disait que le cabaret de Julie Ferrier, c'était la liberté, un sentiment comme ça de pouvoir tout faire et de folie, mais de folie spectaculaire. Est-ce que c'est le mélange des genres qui fait aussi la qualité du cabaret?
Je crois que c'est
chant, danse, transformisme, magie,
dressage. Au départ, le cabaret, c'est un peu, il y a un petit côté one man show. Après, bon, Salice, lui, va ouvrir à d'autres artistes. En fait, il reste maître du terrain quand même. Même si, par exemple, Salice après va se lancer dans le théâtre d'ombre avec Henri Rivière. C'est des travaux absolument incroyables. On découpe les silhouettes, on projette ça. Ça a été une très très grande mode à Montmartre à cette époque. Bon, tout ça après c'est évaporé et c'est arrêté, mais disons que c'est l'esprit cabaret, c'est un peu l'esprit one man show. Aristide Bruant, Aristide Briand, parce que donc il n'est pas tout à fait
ou Bruant.
Oui. il y avait un type d'ailleurs qui l'avait imité qui s'appelait le Bruant Alexandre. Il avait essayé de lui pomper un peu de sa renommée en faisant ça, en ouvrant un truc à côté. Enfin bon, toujours est-il que donc il y a le côté effectivement tout à fait one man show, et c'est le côté chansonnier, c'est-à-dire que ça, il chante, alors danse relativement peu à toute cette époque. C'est vraiment le caractère particulier d'un homme et d'un style. Bruant, lui, c'est l'auteur un peu naturaliste, quoi. Il est dans la tradition naturaliste.
Est-ce que vous mettez dans les cabarets le Moulin Rouge, les Folies Bergères?
Alors au départ, pas du tout.
C'est du musical, ça.
C'est ouais. Musical, c'est des balles, c'est un mélange de tout. Par exemple, quand on prend le Moulin Rouge, c'est vraiment un bal. La prostitution, d'ailleurs, comme dans les cabarets, la prostitution est omniprésente. C'est-à-dire que il y a
au Moulin Rouge.
Au Moulin Rouge, là, c'est la drogue, la prostitution, enfin,
Avant,
bien entendu.
Avant, plus maintenant, on précise à nos auditeurs.
Entendu, oui, surtout à la police, n'y allez pas, c'est fini.
Mais la police y était, bien entendu. Il était déjà. Mais effectivement, il s'agit du 19e siècle. Bon, ouais. Le Moulin Rouge, c'est 1889. Ce sont des danseuses, c'est le fameux cancan, etc. Enfin, la récupération d'un truc qui va s'appeler à ce moment-là le cancan.
Justement valider ce que vous venez de dire sur le cabaret, pour revenir au cabaret. Parce que tout à l'heure, on disait, oui, j'avais fait ce seul en scène, et puis maintenant, je suis en groupe. Mais si on observe quand les gens vont venir, à chaque moment, nous avons chaque acteur a un moment de seul en scène, oui, avec le public. Ouais. Moi, j'en ai carrément 4 ou 5, je crois, des moments où je suis seul avec le public. Donc,
c'est plutôt les enchaînements où les...
Voilà, il y a des tableaux à plusieurs, des tableaux à deux ou trois, des tableaux avec... Mais sinon, moi, j'ai des moments... Donc, pour moi, c'était... Je suis tout bénef dans le sens où...
Les deux.
Je retrouvais le seul en... Voilà, j'ai les deux, le seul en scène et jouer avec les camarades.
Philippe Mélo, je voulais savoir, est-ce que c'est une tradition française, le cabaret, ou est-ce que ça a été importé?
C'est une tradition française à l'origine, parce que bon, le terme cabaret est déjà un terme français, enfin du patois de Picard, je ne sais plus quoi.
Il y a une étymologie cabaret.
Oui, il y a une vague étymologie, mais assez complexe. On part d'une langue.
Et ouais. Pardon. Oui. Et ce qui est traître, parce que bon, maintenant tout le monde parle anglais, enfin j'espère, c'est que musical en anglais, donc musical chez nous, c'est la comédie musicale. Ce qui ne simplifie pas notre histoire.
D'accord. Donc c'est une tradition française.
C'est plutôt une tradition française, et d'abord, encore une fois, pour nommer les marchands de vin, quoi. Donc c'est un terme qui n'a rien.
Ouais, c'est un lieu où on boit, où on s'amuse, où on voit un spectacle, on peut manger. Il y a certains.
Alors, ça devient donc comme on vient de le dire à ce moment-là. Alors il y a beaucoup aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que bon, d'abord, bon, ce sont des trucs comme ça, des personnages un peu uniques. Puis après, ça va être là aussi la composition. Alors ce qui est très important de citer, c'est le Lapin Agile, le fameux Lapin Agile
qui existe toujours,
qui est l'un des rares, mais il n'est pas le seul à exister, et dans lequel ne dansait pas au lapin, mais toute une catégorie d'artistes. C'est là où j'avais une pensée justement pour le théâtre de l'Atelier, parce qu'il y a notre ami Charles Dullin, en 1905, était au Lapin Agile, donc déclamait des poèmes et autres, et puis s'est retrouvé...
Non, puis à Montmartre, il y a eu des patachous, des tartempions aussi, oui, mais avec des brassins, avec des...
Ah, ouais. il parle de Charles Dullin aussi parce que le théâtre se situe place Charles Dullin. Et d'ailleurs, pour revenir encore à ce que vous disiez tout à l'heure, où vous, les artistes accueillaient le public, j'accueille, moi et mon équipe, le public dans la rue, c'est-à-dire sur la place Charles Dullin, justement, les fait rentrer, mais en personnage. Hein.
Merci Philippe Mélo d'être venu.
J'aurais juste voulu dire une chose sur Charles Dullin.
Très rapidement.
Il est devenu directeur artistique du théâtre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a son nom est sur la place.
Absolument. Merci Philippe Mélo. On accueille, il nous a rejoint, Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Certains animaux sont vraiment moches.
Oui, la nature est injuste, elle donne tout à certains et rien à d'autres. Un panda, par exemple, c'est beau. Un panda roux aussi, c'est le Ed Sheeran des pandas. On a envie de les protéger. Mais la limace, tout le monde s'en tape et les chercheurs le disent, les espèces moches en voie d'extinction sont condamnées parce qu'elles sont moches.
Très bien, on en parlera tout à l'heure après les infos de midi. La bande originale avec Lina Kadamoudadi, Marina Rollman, Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tanguy Pastureau. Salut. Albert Anjou et notre invité Julie Ferrier. Julie Ferrier, à ma place, vous feriez quoi ? Julie Ferrier et compagnie au Théâtre de l'Atelier à partir du 4 juin. On a parlé de danse, on a parlé des comédiens, on a parlé de ceux qui venaient à tour de rôle, de ces tableaux où vous pouviez être plusieurs, voire seuls. Mais on n'a pas parlé du chien. Si, on a évoqué un tout petit peu, parce que vous êtes venu avec le chien, mais il est carrément sur l'affiche, votre chien. Et il est présent sur scène.
Elle est sur l'affiche et c'est déjà, ça va être là. Elle avait déjà fait une apparition au César, d'ailleurs. Donc, elle est dressée par mes soins, c'est-à-dire, c'est du dressage amateur. Hein, je le précise. Donc, il est probable que vous la voyez venir sur scène et qu'elle n'ait pas envie de jouer. Donc, du coup, je la laisse. Je lui dis, bien tant pis.
Pourquoi ce plaisir, justement, de jouer avec des animaux
J'adore les animaux.
Avec cette part de risque qu'ils ne fassent pas ce qui est prévu. Bah oui, la preuve, votre propre chien.
Ça, c'est la liberté. C'est-à-dire, tu dresses ton chien, ok. Il n'a plus envie de jouer, ok. Qu'est-ce que tu veux, tu vas pas, tu vois. C'est un chien.
Ouais, mais moi, ce que je cherche à comprendre, c'est normalement quand on est auteur, metteur en scène, patronne de sa troupe, on a envie que tout soit
je suis comme toi. Je suis d'accord avec toi. Oui, je veux que tout soit bien et j'ai bien sûr. Et je suis très rigoureuse, surtout que je viens de la danse. Mais je veux pas comparer un chien à un enfant, mais il faut le savoir qu'au cinéma, par exemple, on les compare. C'est-à-dire, on sait que c'est très dur de tourner avec des enfants et c'est très dur de tourner avec des animaux, même dressés. Donc c'est tout. Dès que tu le sais, en fait, tu es un tout petit peu plus souple avec ton animal, voire, tu vas dans son sens. Si elle veut pas, elle veut pas jouer. C'est que si, moi j'ai eu un enfant, j'ai tourné avec des enfants.
Quand on dit que c'est dur.
Il s'est mis comme ça sur lit, je veux plus jouer, moi! En fait, il nous reste 4 séquences, mon gamin. Ah non, j'en ai marre, j'ai un carambar. Mais vraiment, pour le coup, il était dans la vraie vie. Il voulait plus jouer. On fait quoi ?
Il fallait le dresser.
Tu vas pas lui dire. C'est ça. Non, mais tu vois, il avait 7 ans, le gosse.
Vous parlez d'accident tout à l'heure, et de là peut naître le comique. Ça peut être aussi un ressort, du coup, quand le chien n'obéit pas.
Exactement. C'est-à-dire que ça fait beaucoup rire le public. Ouais. Elle me regarde et elle s'effondre sur le sol. Et comme un tapis, elle est là et elle fait ouais, et donc. Et toi, t'es là. Ok, bon, on va passer à autre chose. Et sans transition, tu passes à autre chose.
Eh ben, sans transition, on va passer à Tanguy Pastureau. Tanguy, vous allez nous parler de la protection de la faune.
Oui, parce que vous le savez, j'adore les bêtes. D'ailleurs, elles me le rendent bien, puisque petit, j'ai eu 7 fois des poux. Le seul souci, c'est qu'à part des chiens, ces êtres dénués de toute psychologie, puisqu'ils nous sautent dessus en jappant de joie, même les jours où on vient d'apprendre qu'on a un cancer. Eh bien, il ne va plus rien rester. Toutes les espèces sont en voie d'extinction, sauf l'espèce de con, l'homme. Il y a donc urgence à sauver ce qui reste, comme les baleines, les fennecs, mais aussi les communistes, parce qu'il n'y en a plus que 2000, exposés une fois l'an à la fête de l'UMA. Mais personne n'en veut. Le public leur préfère les merguez. Ce qui est logique puisqu'au goût c'est meilleur selon une tante de gauche de ma famille. Or tout le monde est d'accord pour sauver les dauphins parce qu'ils sont mignons et qu'en 88 dans le Grand Bleu, Jean-Marc Barr les a choisis plutôt que Rosanna Arquette pour vous dire l'invraisemblance du scénario. Non, j'ai Rosanna dans mon clic-clac mais je me levais à 4h du mat pour être premier au Marineland d'Antibes. Toute la saga des Avengers est plus crédible que ce truc-là. Bref, si on veut aider les dauphins, c'est juste parce qu'ils sont beaux. Et l'Express, le journal des sociodémocrates qui, à la boule, font tout le front de mer en chaussures bateau, consacre un article aux animaux moches qui, eux, risquent de disparaître parce que tout le monde s'en fout. Exemple, le rat taupe nu. Il est fripé, tout rose. Une fois, Julie Gayet en a pris un pour François Hollande. Puis, elle a réfléchi et s'est dit, mais que ferait François à poil dans un trou? Lui qui aime la douceur de la soie et les slips en coton du Nil. Le rat taupe nu a des yeux minuscules, deux dents énormes et moches. Et à cause de ça, disent les chercheurs, on se fiche de son extinction. C'est comme si, sur un navire costant en train de couler, on évacuait les filles avec une silhouette en X et qu'on laissait crever Papy Sylvain qui l'a en W. Alors, un professeur de psychologie explique à l'Express que certains animaux éveillent notre instinct parental parce qu'ils ressemblent à des bébés. Hein, on a envie de les protéger comme les bébés, sauf quand ils ne sont pas à nous et qu'ils pleurent dans le TGV. Ou on a envie de les dissoudre dans de l'acide. Heureusement, on n'a pas d'acide dans le train, mais du Fanta acheté en voiture bar. Il faudrait 14 000 litres de Fanta pour dissoudre un bébé. Or, à la 7e canette qu'on lui vide dessus, la maman s'en rend compte et une fois sur deux râle. Enfin, vous savez comment sont les Français.
Ça marche pas. Hein.
Par exemple, pour peu que Kevin, notre petit haut, ait été exposé aux perturbateurs endocriniens, à 8 ans, il a la même fourrure qu'un panda. Et ben, le jour où on voit le panda avec ses poils noirs et blancs, on dit oh, chromimi le petit tout. Chose qu'on dit rarement quand on voit leur invoquer, parce que son pelage est gris. Hein. Mais la salamandre géante de Chine, qui est toute plate, fait 65 kilos et bave, et ben, on a du mal à s'identifier. Brigitte Macron a parrainé un panda. Les Chinois sont pas venus avec en laisse une salamandre géante avant de lui dire fais pas ta mijaurée, embrasse-la. Elle est pas plus mouillée qu'Edouard Philippe quand il a mis sur son cheveu tout un pot de gel.
Du coup, non, mais je suis choqué. Du coup, choqué. Du coup, la salamandre géante, non, parce qu'elle va disparaître. Elle est en train de disparaître, cette salamandre géante de Chine.
Oui, Nagui, et juste parce qu'elle est pas belle sur Instagram. D'ailleurs, vous tapez salamandre géante, il n'y a pas une photo. Alors que chaque minute sont postées 30 000 photos de pétasses avec le slip de bain dans les fesses à la plage. Du coup, la pétasse prolifère. Au Gros du Roi en août, elle a remplacé toutes les autres espèces. Hein, le ver de terre, pareil. L'appauvrissement des sols fait qu'il disparaît alors qu'il est essentiel. Il recycle la matière organique. Le panda H24, il mâchouille des bambous assis par terre à rien foutre. Doc Gynéco a eu le même parcours, mais juste parce qu'il est beau, c'est lui qu'on va protéger. Alors un spécialiste britannique des phobies explique dans l'article que les animaux visqueux et moches sont liés dans notre esprit à des maladies. C'est pour ça qu'on préfère l'ours à la limace, mais aussi parce que jamais on ne retrouve un ours dans sa salade. Hein, ou alors peut-être dans les Pyrénées, hein, vous soulevez une feuille. Il y a aussi François de Rugy qui crie « Ne le bouffez pas, c'est une espèce protégée ». Bon après il faut que ce soit de grosses salades, mais les politiques sont capables de ça. Enfin il y a des films qui ont plombé certaines espèces, les dents de la mer, hein, où des requins mangent des jambes de tibre recouvertes de crème solaire, ce qui gâche d'ailleurs le goût de la jambe, et ben depuis, les gens détestent les requins, alors que Sauvé Willy a créé une vague de sympathie pour les orques. Or, je suis pas certain que si le requin cherche à vous manger, l'orque s'interpose pour vous sauver avant de vous tendre sa nageoire pour vous faire un check. Hein, quand l'orque crève la dalle, vous aurez beau crier « Arrête vieux, on t'a consacré un film », vous aurez du mal à le décourager, alors que l'ornithorynque, qui est aussi gentil que Michel Drucker, met un bec de canard sur un corps de loutre, comme Michel Drucker quand avant d'aller à Vivement Dimanche, on a pris de l'ecstasy. Personne ne rêve de le sauver, lui. Le culte de l'apparence s'applique même aux animaux. On va être obligé de mettre un coach sportif à la salamandre géante de Chine pour qu'elle se fasse un petit cul. Et là, peut-être se rendra-t-on compte qu'elle existe. J'en appelle donc à Brigitte Macron. Madame, parrainez un ver de terre. Vous n'aurez pas à le sortir le soir et ça prendra moins de place dans votre canapé qu'un de ces pandas à la con.
J'ai trouvé une photo, moi, sur Internet de la salamandre géante de Chine. On parlait des animaux et on continue d'en parler avec Julie Ferrier, cette affiche, puisque vous êtes sur l'affiche en robe de soirée très vampe, très hollywoodienne.
D'après
et avec
une photo,
un chien.
César.
C'est vrai?
Ouais, d'après.
C'était la tenue que vous aviez
lors d'une cérémonie.
Le Nipplegate.
Lors d'une cérémonie où je venais après avec ma chienne justement faire un happening sur le plateau à l'époque du théâtre du Châtelet.
Saluons Cyril Houplin qui a fait cette affiche, qui fait aussi la conception lumière parce qu'il y a beaucoup, comme une troupe, de métiers autour de ce que vous faites. La lumière, le son, les costumes aussi parce qu'il y a des changements. Alors, ouais. Je me demande à quelle vitesse vous les faites ces changements.
Ça c'est le côté un petit peu labeur dans le côté un petit peu pénible et surtout... ce que je veux dire, c'est qu'il y a un timing. Enfin, tu ne peux pas arriver en retard sur scène. Donc tu te prends ton micro, ton fil de micro, ça est panique à bord, ça s'appelle.
Et ça s'appelle aussi le sens du rythme. Tout à l'heure, vous disiez à quel point vous étiez dans la musique, dans le rythme, dans le tempo, dans la danse. L'humour est aussi une question de tempo.
Complètement. C'est-à-dire qu'on dit que la comédie est pour dans toutes les différentes. Le plus important, c'est le rythme.
La
comédie,
ouais, c'est ça.
Le rythme. Ouais. Alors après, on va appeler ça le timing. Par exemple, un exemple très concret, puisqu'elle est très connue, Florence Foresti, mm-hmm. a un timing de ma boule. C'est comme ça.
Et je dis ça, Jacqueline Maillan, je suis pas jalouse.
Qui est sa maître, son maître.
Ouais.
Ouais. Oh, son maître. Ouais. Elle avait un timing de malade. Voilà. Un timing, c'est un truc, on pourrait dire que c'est inné, mais ça se travaille hein, quand même. Mais voilà, le timing, c'est le sens aussi très très fort des ruptures.
C'est ça, ouais.
Les ruptures.
Et puis alors, l'imprévu, vous aimez ça à tel point que, il n'y a pas plus dangereux en termes d'imprévu, on l'a dit tout à l'heure, que les animaux, que ce soit votre chienne ou l'autre animal dont on ne connaît pas l'identité et qui sera au théâtre de l'atelier si le patron l'autorise, il y a le public. C'est-à-dire, vous jouez avec le public, vous improvisez avec le public, mais pas simplement comme certaines personnes seules en scène en interpellant tel ou tel
Mais en jouant au frisbee avec eux.
Non, mais en les faisant monter sur scène.
Alors, je les fais monter sur scène, jouer au frisbee aussi.
Ce qui est beaucoup plus dangereux, parce que s'adresser comme ça, haranguer quelqu'un en disant mais ça se voit que vous vous ennuyez, ou ça se voit que vous n'avez pas fait un bisou à madame depuis longtemps, on peut se dire, il est de dos en plus, on ne voit pas si c'est vrai, si c'est faux, si le gars a vraiment des moustaches ou pas, peu importe, ça peut être le même texte chaque soir. Mais là, quand on fait monter quelqu'un sur scène, et quand il ou elle doit jouer, doit répondre, doit agir, c'est jamais deux fois la même chose. Il y a ceux qui font les malins, j'imagine, il y a ceux qui sont introvertis.
C'est à moi de choisir le bon. Et ça, tout ça, je le scrute quand j'arrive sur la place Chalduelin. Je suis déjà en train de tous vous regarder, en fait. C'est-à-dire, je joue un personnage et derrière, je suis déjà en train d'analyser. C'est très dur à faire.
Mais vous savez pas où il sera assis, où elle sera assise?
Non, mais je le repère, je fais tout le placement. En fait, nous, le spectacle commence à 21h sur scène, mais en vérité, pour nous, il commence à 20h15.
Un spectacle 20h15. De rue.
Ouais. On commence en rue, on rentre, on fait tout le placement. Je devrais pas raconter tout ça, mais c'est pas grave, avec toute mon équipe. Il y a vraiment, je monte sur scène la première fois, je pars du public.
D'accord, voilà. De la salle pour monter sur scène.
Voilà, donc j'essaye de repérer. Ça m'est arrivé de me planter, mais franchement, par rapport au nombre de fois que j'ai joué ce spectacle, j'ai dû me planter 4-5 fois. C'est-à-dire, j'ai eu des pénibles sur scène.
Vous faisiez ça déjà à la Madeleine?
À la Madeleine, bien sûr.
En allant chercher Jean Darby.
À la Madeleine et en tournée dans la France, etc. Et oui, j'ai eu des ce qu'on appelle le pénible, mais c'est pas de sa faute. Je veux dire, déjà, nous, on lui demande de participer, peut-être qu'il savait pas. Donc, je préviens le public qui viendra. Si vous voulez participer au spectacle, comme c'est un placement libre, hein, d'accord? La place est à 34€ et c'est un placement libre. Tu peux être tout là-haut, comme à l'orchestre, ce qui est quand même assez incroyable dans ce théâtre-là, en plus de l'atelier. Donc, si tu veux être... si tu veux monter sur scène, mets-toi plutôt dans les 4, on va dire les 10 premiers rangs. Et si tu as envie de jouer au frisbee, mets-toi plutôt derrière. Mais c'est pas des conneries, hein. Là, je vous aurais prévenu.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation quand même?
Il y a beaucoup d'improvisation.
Est-ce que vous cherchez...
Mais je suis la seule à improviser.
La petite lueur dans l'œil du partenaire pour fou rire.
Il y a un peu d'improvisation, il n'y a pas fou rire. Il n'y a pas d'auto fou rire, là. Il n'y a pas comment ça s'appelle d'auto. Il y en a très peu. En fait, c'est un truc que je ne peux pas parce que je viens pas de cette école-là et je ne peux pas faire ça. Même si c'est jubilatoire de faire ça, mais c'est une autre jubilation que je vais chercher. C'est plus la jubilation du plaisir de jouer que la jubilation de rire entre nous de ce qu'on est en train de faire et qui nous fait marrer.
Il y a une vingtaine de personnages en étant à peine 4 sur scène, ce qui est déjà beaucoup. Julie Ferrier, Enco, à ma place, vous feriez quoi à partir de la semaine prochaine? Tous les talents réunis, toutes des capacités physiques incroyables. Je ne parle pas évidemment de Daniel Mant.
Bah bien sûr, et vous le savez, depuis les 8,5% de dimanche soir, rien ne va plus chez les Républicains, les réunions se multiplient, les déclarations fusent, en tout cas, sans vraiment le nommer clairement, tout le monde est d'accord, il y a un responsable, et ce responsable, c'est Lolo Wauquiez. Lui, il n'est pas trop d'accord, mais pour les autres, surtout pour Gérard Larcher, c'est clair, c'est de sa faute. Et en ce moment, c'est pas simple pour Lolo. Ça a commencé par les messages subliminaux de la part de ses collègues. Hey, salut Gérard. Oh, bonjour Laurent. Bon, faut qu'on se ressaisisse, hein. Il y a les municipales dans un an. Oh, bah oui, je crois que la solution est simple. Faut apporter du changement. Démissionne, hein? T'as dit quoi? Bah, j'ai dit qu'il fallait apporter du changement. Non, je sais, mais après changement. Rien? J'ai rien dit d'autre, casse-toi.
Mais la dédicace-moi, j'ai pas l'air. Non, je t'assure, j'ai jamais rien dit de la sorte.
Dégage.
Non, mais je suis pas fou, je t'entends dire des trucs tout bas. Je pense que t'es surtout très fatigué, Laurent, pauvre naze. Repose-toi un peu, on va s'occuper de tout. On va te virer. Tu sais, tu peux nous faire confiance. T'es mort. Allez, respire un grand coup, fais-moi confiance. Alors, le problème, c'est que Laurent, s'il comprend pas le subliminal, ça va monter un cran au-dessus. Hey, salut Gérard. Oh, Laurent! Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Merde, excuse-moi, c'est parti tout seul, je comprends pas. Putain, ça fait hyper mal! Oh, ça me reprend, dis donc! Mais tu m'as pété le nez, bordel! Mais non! Là oui! Oh, il mal. Est pété! Alors, normalement, Lolo, il comprend ce qu'on veut lui dire. Enfin, j'ai bien dit normalement, non, parce que des fois, de l'extérieur, il y a des trucs qui nous semblent évidents, mais de l'intérieur, aussi flagrants soient les messages, on comprend pas. Du coup, ça peut créer des situations hyper compliquées dans son quotidien. Va falloir qu'il se méfie, Lolo. À tout moment, la menace va peser. Bonjour, monsieur Wauquiez. Oh, bonjour, madame. Une baguette, s'il vous plaît. Alors, une baguette, et en plus... Nom de Dieu, c'était quoi, ça? On vous tire dessus, monsieur Wauquiez. Quoi? Mais c'est sur moi qu'on tire, oui.
C'est sur vous. Mais c'est qui?
C'est l'archer de l'autre côté de la rue, là, avec un fusil. Où ça?
Là.
Coucou, Laurent! Mais si ça continue, je vous préviens, attention! Je vais démissionner! Ah ben voilà! T'as fini par comprendre, mon Lolo! Mais oui, c'est mieux pour tout le monde si tu pars. Tes collègues, ça va les soulager. Toi, tu seras plus tranquille, et surtout, tu seras beaucoup moins mort. Allez, à demain.
Merci.
France Inter, la bande originale, avec Maggie.
La bande originale avec Julie Ferrier sur scène, avec sa compagnie, sa troupe, sa folie, son originalité, sa liberté. À ma place, vous feriez quoi? Tous les arts sont représentés, la musique, la danse, le mime.
La nudité.
Ah ouais, ok, ah, on y
mais
va.
Est-ce que c'est un art?
Si, c'est un art.
Ah, le burlesque.
Oui, mais il y a un peu de burlesque, ce mais c'est furtif.
Ouais.
En tout cas, ça peut être un désastre. Je sais pas si c'est un art, mais ça peut être un désastre. Les fois que j'ai essayé.
En tout cas, c'est à partir du 4 juin prochain. On a compris que le cinéma était moins une urgence pour vous en faisant ce genre de spectacle. Et en disant d'ailleurs, j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie d'attendre au cinéma. Est-ce que vous prenez pas une distance trop, comment dirais-je? Trop importante avec ce milieu-là. On sait bien qu'il y a des
c'est très dur à gérer.
Bah oui.
Mais oui. Mais tu comprends beaucoup de choses, Nagui. Écoute, c'est vrai parce que c'est très délicat. Le cinéma, nous sommes un objet de désir. Catherine Deneuve en parle très bien, beaucoup mieux que moi, j'imagine. C'est-à-dire qu'on est désiré. Le théâtre, là, dans ce que je vous propose, à ma place, vous feriez quoi? Ben, je ferais mon art, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui vais chercher le public, comme dans le théâtre de rue. C'est moi qui vais créer ce spectacle, qui vais le proposer aux visiteurs du soir, qui va le proposer au théâtre de l'Atelier. C'est presque une autre démarche. C'est presque un autre métier. Voilà.
Ça ne correspond pas plus?
Les deux me correspondent. Ouais. Les deux me vont. C'est-à-dire, je suis honorée des deux. Je suis très contente de pouvoir faire les deux. Après, il y a quelque chose que je dois dire, c'est que le cinéma ne t'appartient pas en vérité. Tu es encore une fois l'instrument d'un auteur, d'un film, d'un... T'es au service du film.
Oui, on est l'interprète.
On est l'interprète. Et vraiment,
de l'autre.
On se doit de l'être.
Il faut qu'il y ait un désir.
On se doit de l'être. C'est
un partage aussi dans le désir.
Bien sûr. Et alors, tu vas partager ça, tu vas jouer. Et puis après, il y a le résultat.
Vous avez déjà été déçu par le
cinéma?
Ouais.
À ton avis?
Non. À ce point.
Évidemment. Oh, bah, évidemment. Je suis désolée de le dire.
Bah, hier, Claude Lelouch disait le plus grand bien de votre jeu, et d'ailleurs vous jouiez deux personnages dans Chacun sa vie.
Mais Claude Lelouch, Chacun sa vie, c'est une de mes plus belles expériences cinématographiques.
Pourquoi?
J'ai dû faire à peu près 40 films, ce qui est déjà, je sais pas comment c'est arrivé, c'est assez phénoménal quand même. J'en retiens que 10.
Alors vous avez appris quoi avec Claude Lelouch sur le cinéma et sur votre jeu? Ou sur vous d'ailleurs?
Pour moi, Claude Lelouch, c'est l'enthousiasme incarné. L'enthousiasme, ça se demandait si le mot n'a pas été créé pour lui. J'ai jamais vu un type aussi enthousiaste, mais dans une sincérité totale. On va le faire. Il embarque tout le monde à 9h du mat, et à 7h, il te lâche. Et toute la journée, c'est un festival.
Et sa manière de travailler en
soufflant, feu d'artifice, ce type.
En soufflant des répliques, en soufflant des intentions pendant le jeu, c'est agréable ça?
Mais c'est pas ça, c'est qu'avec Claude, moi j'ai eu la chance d'avoir 4 ou 5 façons de travailler différentes. La façon la plus académique, c'est-à-dire t'apprends ton texte, on te filme, tu le joues. T'as Claude qui te souffle à côté de toi, Claude qui te souffle derrière le cadre, derrière la caméra, Claude qui te dit « à allez, freestyle. Donc impro total, il disparaît, donc plan séquence, on y va, on improvise avec Gérard Darmon ou je sais pas.
Donc la question c'est alors, vous apprenez donc, quoi sur vous ou du métier en travaillant comme ça?
Ah ben là, c'est, on est sur du tout terrain, hein, je veux dire.
Ce que on t'as... est une espèce de pâte à modeler au, avec Claude, dans les mains d'un créateur.
Et t'es du tout terrain surtout. Mm. C'est de tout terrain, de tout moment. Et t'imagines que je récupère un rôle 2 jours avant de tourner, parce qu'une actrice peut pas venir, et je me retrouve à faire 2 rôles dans le film. Mais c'était pas au scénario, ça, par exemple.
Et l'inverse de tout ça, ça serait quoi? Le travail avec Philippe Découfflé, où là, j'imagine que c'est plutôt la rigueur et l'absence d'improvisation?
Alors, je préférerais citer un cinéaste. Plutôt qu'un...
Non, non, mais je cherchais...
Jean-Pierre Jeunet, par exemple. Je préfère un cinéaste parce que c'est le même art, c'est le 7e art.
Très bien.
Parce que Philippe, c'est tellement... J'adore Philippe. Hein,
on va comparer ce qui est comparable,
oui. Oui, voilà. Ouais, Jean-Pierre Jeunet, voilà. Là où on est plus cadré, on est dans un cadre. C'est le cas de le dire avec le...
Et là, c'est très
la
précis.
La caméra. Ouais. Ouais, voilà.
Qui a marqué ou chamboulé dans votre vie artistique par son travail, qui a chamboulé votre vision du métier?
Tu l'as dit il y a 2 minutes, enfin 2 secondes. Philippe.
Ah ouais.
Philippe Découfflé.
En quoi?
Bah c'est pas ça, c'est que quand j'ai vu ça, donc j'étais danseuse depuis 2-3 ans et j'ai eu la chance après de travailler avec lui, mais j'ai vu, je crois, ça devait être Triton ou Codex ou des Codex, je sais plus, mais. J'ai vu son spectacle en Avignon, j'avais, je sais pas, 17 ans, 18 ans, et j'ai dit, je veux rentrer dans cette compagnie. Alors, je ne suis jamais rentrée dans la compagnie, ça fait partie de nos parcours.
Mais il y a des
choses qu'on ne peut pas, on peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir, on peut pas, voilà. Je rêvais de rentrer dans sa compagnie, mais j'ai eu la chance de travailler avec lui 3 fois dans ma vie, à 20 ans, à 25 ou 30 ans et à 35 ans. On s'est retrouvés sur différents événements, dont les Jeux Olympiques d'Albertville.
Albertville.
92.
On va vous retrouver, alors pas au cinéma dans l'immédiat, mais dans un Crime Parfait qui passera bientôt sur France 3. À part évidemment le succès de À ma place, vous feriez quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou de quoi avez-vous envie? Qu'est-ce que vous décidez comme projet? Puisqu'on a l'impression que c'est vous qui décidez de la direction de votre carrière.
Alors, j'aimerais vraiment m'inscrire dans une belle œuvre cinématographique. Donc ça ne dépend pas forcément que de moi.
Mais si, vous pourriez l'écrire et la réaliser?
Non, parce que je suis sur un spectacle. Et là, ça, c'est la deuxième. Il y a 2 choses. Okay. Bah, les 2 parallèles hein, qui se suivent et qui essayent de tenir. C'est donc le théâtre et le cinéma. Donc un très beau film. J'adorerais. Pas forcément un grand rôle ou un beau rôle, mais un beau film. Un grand film. Ça, j'adorerais. Et si possible, social.
Et vous avez un réalisateur ou une réalisatrice avec...
Ken Loach, Louis-Julien Petit. J'adorerais retourner avec Lapiche ou Jean-Pierre Jeunet. Mais voilà, en gros, ou Paul Thomas Anderson. Mais bon, après, tu vois, là, je rêve, je crois. Mais,
bah oui, mais comme jusqu'à
mais
présent...
Mais Louis-Julien Petit, Les Invisibles, notamment, ouais. Discount. Voilà, j'aimerais faire un beau film, comme Les Invisibles, c'est-à-dire un film social et très fort et intense et drôle.
Et l'autre émouvant. Spectacle alors?
Et alors l'autre, c'est que j'arrive à monter ce spectacle je pense que ça sera peut-être mon dernier, en tout cas en tant que créatrice, parce que j'aimerais bien après m'atteler un petit peu à ce que j'ai fait il y a très longtemps, c'est-à-dire le répertoire, la littérature française, c'est-à-dire le répertoire Tchekhov. J'adorerais quand même jouer les grands classiques, quoi.
D'accord.
Mais avant ça, c'est un spectacle que j'ai écrit il y a maintenant 20 ans et que j'essaye de monter, qui est un petit peu, c'est un conte en 3 actes. J'ai mis longtemps à l'écrire. Ça n'a rien à voir avec le cabaret. Et c'est sur la robotique. Voilà.
Oula. D'accord. Ok. Mais on est dans.
C'est-à-dire que ça va être drôle, mais ça part d'un. On est un peu parce que j'ai le mot que j'ai appris hier, c'est-à-dire c'est un film spectacle d'anticipation, mais d'anticipation qui est un petit peu pour moi
noir.
Le transhumanisme, ce n'est pas l'avenir. Mais là, c'est en train de le devenir.
D'accord. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument. Désolé déjà pour tous nos auditeurs sains d'esprit qui ont bien entendu ces phrases. Madame, c'est bien comme un nom de scène pour un chien et je l'ai appelé Madame parce qu'on le prend pour un monsieur. Ben voilà, et comme il est là ce matin, le fameux Madame, faites gaffe à ce qu'elle finisse pas en rôti à la cantoche de Radio France parce que là, croyez-moi, comme mort atroce, on touche le Graal. Désolé pour nos auditeurs bretons qui ont été... Quelque peu étonné que
ça.
Nagui présente leur région comme un bout du monde aride.
Parce que
n'essayez pas de vous rattraper. Il y a Finistère. Un côté pathétique dans votre démarche.
C'est là où la terre se finit.
C'est une région de punition où les enfants sont vilains, les femmes sont laides et les hommes sont forts. Et encore, je reste modéré. Je ne traduis que partiellement la colère du troubadour égyptien. Désolé pour Monsieur Kadour Boudadi qui a découvert qu'en plus des magnums de poppers, Madame aimerait se faire offrir une paire de seins nouveaux. Alors, vous savez, service public.
public oblige, on va monter une cagnotte sur la page Facebook de l'émission. Allez, à votre bon cœur.
Merci Daniel Morin, merci Julie Ferrier.
Merci à vous.
Et bravo pour le spectacle. Allez le voir et l'applaudir, c'est au Théâtre de l'Atelier. Et ça commence dans la rue et ça finit sur scène et ça résonnera dans vos têtes et dans vos cœurs au Théâtre de l'Atelier à partir du 4 juin. À ma place, vous feriez quoi? Demain, Agnès Jaoui sera à ce micro et nous parlons de la Tosca et des opéras en plein air. Philippe Bertrand, que vous retrouvez maintenant pour les carnets de campagne. Bonne journée sur Inter.
Merci Nagui et à demain.